Bonjour à vous, bienvenue dans cet audio consacré au thème du mariage sacré. J'avais envie de commencer à vous parler d'abord de l'ascension. Parce que nous, on a vu en fait la reliance de la tête et du corps dans le chapitre précédent. Et cette reliance de la tête et du corps, eh bien, elle a pour finalité le renouveau du pouvoir guérisseur du cœur. Le retour du pouvoir du cœur chez l'être, chez la personne, c'est un grand, grand moment dans son histoire d'âme, parce que c'est une marche qui va lui ouvrir la voie de l'ascension. Puisque nous sommes des êtres avec une ou plusieurs parts divines, on peut donc dire que nous sommes des dieux créateurs. Mais attention, nous sommes des dieux créateurs à la crèche, et à la crèche de la petite enfance. Nous sommes des bébés dieux en fait. Et on peut voir aussi que les dieux et les déesses des différentes mythologies de notre histoire, eh bien, on peut dire que ce sont des anciens, des déesses ou des dieux matures qui ont fait des études supérieures, qui sont beaucoup plus avancés que nous. D'ailleurs, j'aime énormément l'appellation de maître ascensionné comme façon de les définir. Je trouve que c'est assez juste parce que dans cette expression, il y a cette idée de maîtrise qui manque tellement encore et encore à notre très chère race humaine, idée de maîtrise, mais aussi d'ascension. Et l'ascension, c'est un terme tellement utilisé ces derniers temps. Avant tout, cela reflète une perspective de conscience qui s'ouvre. C'est un peu comme si on est sur, on imagine hein, être sur Google Maps, vous savez, le logiciel qui permet de voir la géographie, de nous localiser, de faire des itinéraires. Donc on est sur Google Maps et on est sur notre maison, on va dire. Eh bien, l'ascension, on peut le voir comme si on dézoomait sans cesse. On dézoome jusqu'à ce que la Terre ne soit plus qu'un point. Beaucoup vont parler de l'ascension comme une succession de marches même dimensionnelles. On change de dimension, etc. et on monte. Mais vous remarquerez que dans ce cas précis de marche dimensionnelle, eh bien, on se trouve toujours en bas d'un escalier gigantesque, et puis l'effort à fournir pour nous faire grimper tout en haut semble absolument infini et parfois même hors de portée. Par contre, dézoomer, déjà ça place notre conscience au niveau plus haut. Et l'acte de s'étendre, surtout à l'ère des iPods et des iPhones, c'est beaucoup plus simple et intuitif que celui d'escalader. On ressent un petit peu moins la sensation d'effort à fournir. C'est beaucoup plus naturel, peut-être même. Alors, on a vu que la soif de connaissance nous a entraînés dans le monde merveilleux de la matière créée pour nous par la Shakti. Et pour nous, en tant que bébé Dieu, afin que nous puissions découvrir ce que nous sommes, puis plus tard revenir à la maison pour tout raconter peut-être à nos parents, toujours en utilisant cette métaphore des bébés dieux, donc peut-être à des parents dieux. Et puis on peut imaginer que tout aurait donc pu bien se passer, sauf que c'était beaucoup trop tentant de piéger ces bébés dieux au stade de crèche, parce que on les imagine comme des petits nourrissons de notre temps. Donc avec un pouvoir et une puissance beaucoup, beaucoup plus faible et ne pouvant se débrouiller tout à fait par eux-mêmes, car ils doivent apprendre tout ça. Et puis aussi, il faut dire que comme des petits enfants, notre conscience n'est pas tout à fait élargie. Elle est assez restreinte par rapport à ces dieux matures et anciens. Et cette conscience non élargie va diffuser toute notre énergie dans une toute petite aire de jeu, finalement. Et ces jeux-là, ce sont des jeux de pouvoir, de possession, de richesse, de peur, etc. etc. Et cette énergie, l'ombre, qui, ici je la différencie de l'ombre avec un O majuscule, hein, qui est notre part inconsciente qui nous appartient, notre ombre à nous, là l'ombre avec un petit O, va se nourrir de toute cette énergie qu'on diffuse dans une toute petite aire de jeu. Et elle s'en nourrit un peu comme une télécommande, se nourrit de ses piles LR6, tout simplement. Et cette ombre-là, on peut aussi les appeler ceci des interférences parce qu'ils prennent finalement notre énergie dont on aurait besoin pour continuer à avancer, à dézoomer ou à escalader cette échelle ascensionnelle. Comme nous renforçons ce que nous évoquons, je vais intentionnellement ne pas m'étendre sur ce sujet des interférences. Je ne fais que signaler leur existence, là aussi sans citer le moindre nom, parce que nommer, c'est donner du pouvoir. Et c'est bien, s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas envie de renforcer et de donner du pouvoir, c'est bien ces interférences-là. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, je ne fais que signaler en passant, en expliquant pour qu'on comprenne pourquoi l'ADN humain s'est vu amputé d'une certaine part, ou en tout cas pas amputé mais mis en veille, heureusement, et pourquoi les prêtres et prêtresses donc de notre histoire, dans certaines lignées, ont gardé le silence sur ce sujet, tout en agissant discrètement pour faire obstacle. Pour résumer, un petit peu continuer notre hypothèse, sur Terre, les piles ou bébés dieux, ça dépend comment on a envie de voir les choses, donc ces piles et bébés dieux que nous sommes, ont donc été piégés pour rester finalement plus longtemps à la crèche, pour rester plus longtemps à ce stade. Et certains ont tout de même, tout au long de l'histoire, réussi à s'échapper de cette condition, et ils ont avancé, ils ont dézoomé pour finalement devenir des maîtres ascensionnés. C'est notamment le cas de la Vierge Marie qui appartient à la lignée des mères. Continuons cette fois-ci sur la thématique de la technique de la conception divine, puisque l'on parle de la Vierge Marie. Comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, des indices récoltés, notamment par un des livres que je vous avais mis en ressources, écrit par le docteur Marguerite Marie Rigoglioso dans son ouvrage The Mystery Traditions of Miraculous Conception. Attention, l'anglais je gère, hein, n'est-ce pas? Dans cet ouvrage-là, qui malheureusement n'est pas encore traduit, eh bien, on apprend que la mère Marie est bien née, elle aussi, de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire de la faculté d'une femme, ou plutôt d'une prêtresse, à donner la vie sans semence masculine, sans semence humaine. Anne est la mère de la Vierge Marie, et dans ce cas-là, cet acte d'immaculée conception a un autre terme, ça s'appelle la partogénèse, qui est une reproduction uniquement avec le contenu génétique des gamètes de la mère, et donc elle ne peut donner vie finalement qu'à une fille, puisqu'elle n'a pas le programme génétique masculin qui est donné par les hommes, les pères. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un clone, hein, il ne faut pas confondre, ce n'est pas un clone de sa mère, car les gamètes se reproduisent par la technique de la séparation cellulaire de méiose et non de mitose. Mitose, donc on obtient une cellule identique après reproduction, alors que ici le contenu génétique n'est pas identique à celui de la mère. Cette méthode de reproduction divine, un peu incroyable, cette partogénèse, elle se retrouve ailleurs dans le peuple animalier. Tout l'ouvrage de Marguerite Rigoglioso en parle, et pour elle, il y a énormément d'indices, c'est toute sa thèse qui est là-dessus. Je ne vais malheureusement pas tout reproduire dans cet audio, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous savez lire l'anglais, c'est un ouvrage que je conseille parce qu'il est véritablement passionnant. En tout cas, elle émet l'hypothèse que c'était une pratique assez courante dans l'Antiquité, avant la chrétienté. Et elle évoque notamment plusieurs cas, comme celui de Perséphone, qui aurait été un enfant partogénèse de Déméter, puisqu'en fin de compte, on ne lui connaît pas vraiment de père. Et en fait, ces prêtresses-là qui tombent enceintes sans homme, eh bien, c'est ce qui aurait justement donné naissance au mythe de Dieu, enfin, Dieu au pluriel, je pense surtout à Zeus, hein, qui tombait amoureux de belles femmes mortelles et qui, après l'acte d'amour, leur donnait des enfants nés demi-dieux tels qu'Hercule, Apollon, Artémis ou, comme je le disais, Perséphone. Et qu'est-ce que des enfants demi-dieux? C'est bien des êtres capables de faire ressurgir leur part divine et peut-être même d'être des Graals parfaits. Se pose alors la question, la conception immaculée ou conception divine ou miraculeuse, peu importe son nom, serait-elle capable justement d'annihiler la répression de l'ADN humain? Est-ce que ça pourrait être la possibilité trouvée par les lignées des prêtresses de la Rose ou des mères pour contourner la perte de cet ADN, la perte du Graal? Ainsi, eh bien, non seulement ces lignées partageaient la connaissance de la dépossession de l'humain de cette part-là divine, hein, mais aussi le savoir pour le retrouver par la conception miraculeuse ou la partogénèse. Cependant, cette technique n'est pas faisable par tout le monde. La première condition déjà, c'est d'être une femme avec un utérus. Donc 50% de la planète se retrouve directement exclue de cette technique-là. Puis, toujours d'après les hypothèses de Marguerite Rigaud-Guillozo, établir une pratique de vie rigoureuse est absolument nécessaire pour réussir une partogénèse, avec des méditations quasi perpétuelles, une alimentation très stricte, notamment végane, etc. Et un aménagement en fait de la vie qui est juste absolument strict, rigoureux et tout l'inverse en fait de la façon dont on vit de nos jours, mais déjà rigoureux par rapport à la vie dans l'Antiquité. Dans les évangiles, Anne, donc la mère de la Vierge Marie, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui là aussi serait née de conception divine, eh bien toutes les deux, Anne et Élisabeth, avaient un âge avancé, d'ailleurs au moment d'enfanter. Il se pourrait que cette technique requiert possiblement une maîtrise non atteignable sans une grande sagesse, une expérience et peut-être même des rituels. En tout cas, pour l'auteur de The Mystery Tradition of Miraculous Conception, il est aussi possible que ce soit la pression en fait, de la société sur les prêtresses qui était devenue tellement forte que cette technique, en fait, elle avait été tout bonnement interdite, alors que c'était quelque chose certainement de connu à l'époque. Et puis, ça explique aussi la lourdeur des peines encourues pour les femmes enceintes hors mariage et cette nécessité toujours d'être mariée, donc pour avoir un enfant, alors que cette condition excluait totalement les prêtresses qui, elles, étaient vouées à la base, hein, dans leur dévotion, à rester éternellement célibataires. Donc, d'après toujours le docteur Rigaud-Guillozo, pour contourner cette loi juive très oppressante, les prêtresses furent finalement mariées, progressivement, mariées à des grands prêtres, quand cela était possible, ou en tout cas à ceux qui détenaient aussi un minimum de connaissances mystiques, et peut-être même autour du Graal. Et c'est ce qui est arrivé, c'était le cas de Marie avec Joseph. Alors, parlons un petit peu de l'histoire de Marie et de Jésus, parce que ben déjà l'histoire de Marie est captivante pour avoir été issue d'une conception sans homme avec la prêtresse Anne, appelons-la comme ça, mais parce qu'elle-même, Marie, a réussi également à donner naissance à un enfant sans sexualité. Donc c'est un peu les poupées russes finalement de la conception divine et c'est incroyablement passionnant. Parce que si les prêtresses peuvent créer la vie par partogénèse, cela n'explique pas la naissance de garçons. Parce que ce n'est juste pas possible de donner naissance à des garçons avec cette technique-là. Donc, toujours d'après le savoir et les indices récoltés par le docteur Rigaud-Guillozo, cette technique-là de donner naissance à des garçons était encore plus rare et plus complexe. Les indices laissés dans les récits, les évangiles retrouvés à Nag Hammadi sont flous. Est-ce que c'était un rite, un cercle de femmes dans le temple? On n'a pas vraiment de réponse. Peut-être même, est-ce que les dieux intervenaient réellement et ensemençaient énergétiquement les femmes? Ici, c'est encore plus obscur que la première technique. En tout cas, quoi qu'il en soit, Marie réussit cet exploit à environ 12 ans. 12 ans, oui, c'est jeune. Surtout que Joseph, lui, était âgé. En tout cas, d'après ce que l'on sait, c'est qu'il avait au moins un fils déjà à l'âge adulte. Donc voilà, marier une jeune fille de 12 ans avec un homme de possiblement 30 à 40 ans. On imagine un petit peu que ça devait être peut-être moins un acte d'amour que une nécessité de marier une prêtresse déjà enceinte. Et ça va également dans le sens historique, ou plutôt dans le sens de la Bible. Mais imaginons un petit peu le tableau sous ce nouvel angle d'interprétation de l'histoire de Marie, une histoire que j'aime beaucoup, vous pouvez l'imaginer. Donc une fillette, prêtresse au temple depuis ses 3 ans, parce que c'est apparemment l'âge à laquelle Anne et Joachim ont offert leur fille au temple, porteuse du Graal finalement, parce que issue elle-même d'une conception divine et donnant à son tour vie sans intervention humaine et d'un garçon. Voilà donc une lignée plutôt extraordinaire, une lignée d'un nouvel ADN ou d'un ADN réactivé, certainement porteur de ce brin, qui font que ces corps sont des Graals, certainement encore plus purs ou plus complets que tout ce qui s'est vu jusque-là. Et je ne sais pas pour vous, puisque tout ça c'est du domaine de l'hypothèse, mais cela fait grandement sens finalement, en tout cas pour moi. Parce que si Jésus a pu accomplir tant de miracles, ne serait-ce pas car il était porteur du Graal, qu'il était le Graal plutôt, et qu'il n'était plus interféré, et si les prêtres et prêtresses de la rose, de la lignée, de la mère ont toujours fait profil bas de donner cette information de mystère qu'à certains élus et initiés, ce maître-là, Jésus, s'est montré. Il a fait quelque chose de très différent et il a voulu faire connaître le secret à tous parce qu'il disait que tous les humains pouvaient accomplir les mêmes miracles lui, voire davantage. Parce que finalement, n'est-ce pas vrai? Est-ce que tous les humains dans leur ADN ont cette possibilité-là, et en tout cas à l'origine de la race humaine pouvait tout à fait le faire, d'où également toutes ces légendes de miracles anciens ou d'Atlantide, etc. Ce qui explique aussi d'autant plus le fait que Jésus a peut-être été réduit au silence, condamné à mort, parce qu'à la fois ce n'est pas une vérité qu'on a envie d'entendre, ça nous paraît tellement incroyable, c'est pour ça aussi que j'appelle cela une hypothèse dès le début. Parce que c'est tout bonnement, ça nous dépasse. Encore peut-être même plus à l'époque. Peut-être aussi que du coup, ces interférences-là ont agi, peut-être. Et ensuite, ça explique également pourquoi l'Église a tout fait pour nous faire penser que les miracles de Jésus n'étaient pas à notre portée. Que finalement, on nous a continué à nous éloigner plutôt de notre propre divinité pendant des siècles, encore et encore. Et c'est comme si, après un bref instant de lumière et d'espoir qu'avait été Jésus, et ben du coup l'humanité était brusquement redevenue des piles ou des bébés dieux, sauf si éventuellement la lignée Anne-Marie-Jésus a continué. Et là aussi, on a très très peu d'indices qui nous fait dire cela, qu'il y a peut-être dans l'humanité, une lignée qui est tout à fait capable d'être des Graals. Pour moi, il y a cette technique-là que j'évoque avec vous aujourd'hui, qui paraît être totalement incroyable et hors de portée, même si dans l'ouvrage toujours du docteur Hugo Glioso, il y a l'histoire d'une femme dans les années 70 qui aurait réussi à concevoir de façon miraculeuse. Mais il y a une autre technique, et peut-être que c'est Jésus qui a pu enseigner cette technique-là, notamment à une femme, une technique accessible à tous. Et bien sûr, cette femme-là, c'est Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine n'était pas une femme de cette lignée-là, qui, comme Marie, était née par Immaculée Conception. Et dans ce sens-là, Marie-Madeleine est bien plus proche de nous. Parce que comme nous, elle a été dépossédée de ce bout d'ADN dès le début qui va coder notre accession au Graal. Son histoire, que l'on connaît mal, hein, eh bien, on sait juste que ça tourne autour de plusieurs axes. La délivrance des sept démons, l'acte d'oindre Jésus, la première apparition de Jésus après sa mort, son voyage et son enseignement dans le sud de la France, et on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est tout. Nous n'avons preuve de rien d'autre, mais de nombreuses canonisations de Marie-Madeleine partout dans le monde ont révélé également, par exemple, son mariage de Jésus lors des noces de Canaan, par exemple. Dans le manuscrit de Marie-Madeleine de Tom Kenyon, on apprend surtout sa qualité de prêtresse tantrique, ce qui est également très nouveau, mais ce qui peut également expliquer pourquoi elle avait été considérée comme prostituée. La magie sexuelle issue de sa prêtrise Isiaque aurait même aidé à renforcer le corps de lumière de Jésus afin de lui permettre la résurrection. Et nous voilà à nouveau sur cette thématique du corps de lumière, qui est un corps qui ressemble parfaitement au nôtre, mais qui est d'ordre énergétique, et on va le voir un petit peu plus tard dans les prochains chapitres. Et cette histoire de retrouver la pleine puissance de ce corps-là, de ce corps énergétique qui fait de nous des Graals, des vaisseaux parfaits, des humains parfaits, en tout cas parfaits, créés ainsi à l'origine. Donc, être porteur ou porteuse du Graal, finalement, c'est pour moi être porteur de ce gène qui est en veille, qui a été mis en veille par des interférences et qui l'est possible de retrouver. Et pour cela, il existe plusieurs techniques. Je vais en expliquer certaines tout au long de cet atelier, bien évidemment. Et j'ai envie de commencer à vous expliquer par la plus simple et celle qui va être un petit peu la base de tout le reste. Donc on va construire nos fondations solides et ensuite on va monter d'étage en étage. Et cette première technique s'appelle le feu du cœur. Et je vous en explique davantage dans le reste de cette page. À tout de suite pour la suite.